Oui, alors, ce que je voulais dire sur la question de la communication non verbale, c'est qu'en fait, la communication verbale, bien sûr, est de structure langagière. On voit bien que nous sommes agis par les mots, parce que les mots ont agi sur nous. En d'autres termes, on peut dire au niveau du langage, les signifiants, hein, la question de l'aller-retour entre signifiant et signifié. Et donc effectivement, nous sommes agis par le langage au niveau des signifiants qui s'apposent sur nous dans une articulation qui, elle, demeure néanmoins parcourue de méandres et de torsions, si vous voulez, dans une articulation qui est toujours hasardeuse pour le sujet, si vous voulez, qui est impactée des mots, des signifiants et de ces signifiés, si vous voulez, quoi, directement. Donc en fait, la communication verbale n'existe parce qu'il n'y a, il n'y aura de cesse une communication verbale, si vous voulez. Mais il faut la mettre entre guillemets, cette expression communication verbale. Mais si vous voulez, la communication non verbale, telle que le business de la communication non verbale est désigné en tant que tel, si vous voulez, est tributaire du langage. Voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure entre le langage. Et la communication verbale. Il y a une coupure entre la communication verbale et entre la communication verbale et la communication non verbale. Hein. C'est-à-dire que quand on dit la communication verbale, si vous voulez, elle n'est tributaire que d'elle-même. C'est elle-même qui s'est fait le jugement. Si vous voulez, la césure de ne pas parler. Voilà. Alors, le sujet ne parle pas dans le cadre de la mélancolie. La mélancolie, c'est la clinique typique du sujet qui ne parle pas. On voit très bien, notamment chez les adolescents, et si vous voulez, chez l'enfant, ça va être plus une fermeture, une forme de comment dirais-je, d'absorption, de coupure, mais qui n'est pas au stade de la mélancolie. Chez l'adolescent, on entrevoit assez clairement la mélancolie. Après, chez l'adulte, ça c'est clair, la mélancolie est très présente, hein, évidemment, et c'est dans le cadre du sujet mélancolique que, si vous voulez, eh bien, la communication non verbale prospère. Alors, dans la communication non verbale, il n'y a pas que la mélancolie, bien sûr. Il y a d'autres comportements psychiques et psychologiques, évidemment. Il y a le mutisme. Après, il y a la clinique qui s'occupe effectivement de ces dimensions psychiques. Un peu borderline, hein, même qui ont un sacré pied quand même dans la psychose, même s'il faut se méfier du caractère fixe et statique que nous pouvons attribuer à cela. Il y a des crises, hein, chez les adultes qui font que, si vous voulez, il y a une fracture à un moment donné dans le continuum spatio-temporel relationnel, il y a une rupture, hein. Une rupture qui fait que à ce moment-là, une crise arrive, mais c'est une panique, un tourbillon de panique. Et ce tourbillon de panique, il peut arriver à n'importe quel moment de la vie. Hein. Il n'y a pas de saison des crises. Hein. Il y a une saison de la météo. Si vous voulez, du climat, enfin de la position de la Terre par rapport au Soleil, ça, il y a des saisons différentes. Hein, il y a des saisons qui sont très déterminées par le courant du Feng Shui. Hein. Donc l'automne, ça va être le métal, l'hiver, ça va être l'eau, les intersaisons, ça va être la Terre, donc, notamment pour passer de l'été à l'automne, puisqu'on passe de l'élément feu à l'élément métal, donc il faut une intermédiaire qui est l'élément Terre. Vous voyez, donc, si vous voulez, je pense que, pour revenir à mon propos, je dirais que le terrain de la communication non verbale est miné. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a une production de textes importante hein, dans différents domaines et des sciences humaines et sociales où parfois on n'y voit pas très clair. C'est-à-dire qu'il y a des formulations un peu toutes faites dont on a du mal à interroger le, dont on arrive à interroger le sens, mais dont aussi symétriquement on a du mal à interroger le sens tellement elles s'avancent comme des propositions toutes faites et qui demeurent comme telles, comme des propositions un peu marquetées, un peu et ça va un peu trop rapidement. Puis les gens achètent ça et puis ils comprennent pas très bien. En fait, ils ne comprennent pas qu'ils ne comprennent pas, si vous voulez. Ils comprennent qu'ils comprennent, mais en même temps, comprendre qu'on comprend, c'est pas tout. C'est aussi ne pas comprendre qu'on ne comprend pas. Voilà. Donc voyez que je pense qu'il faut envisager la communication verbale comme une communication verbale, en fin de compte. En admettant néanmoins que quand je dis verbal, c'est plutôt les signifiants et les signifiés. Hein. C'est plutôt le langage qui demeure, si vous voulez. Donc, il faut savoir qu'on est agi par le langage en permanence, si vous voulez. Lacan le dit, l'inconscient, il travaille comme un prolo 24 heures sur 24. Hein. Bon. D'ailleurs, il dit à un moment donné, ça parle. Hein. Ça étant l'inconscient, bah oui, ça parle. Comme de façon générale, il est assez métaphorique et imagé, dans le monde social, ça parle tout le temps. Vous voyez. On peut s'interroger d'ailleurs sur le fait que, par exemple, à la télévision, les journalistes dans les chaînes d'information continue parlent tout le temps. Ils commentent des propos de tel président, de telle personnalité publique, etc. Bon, voilà. Et donc, on peut s'interroger sur la planche à langue. On parlait de la planche à billets. Sur le plan économique, on peut s'interroger sur la question de la planche à langue. Hein. Alors, on peut parler de la planche verbale aussi, hein, tout simplement. La planche, la langue étant encore différente de la parole, du langage, et donc, si vous voulez, la linguistique prend une certaine distance pour différencier tout ceci. Et donc voilà, je vais m'arrêter sur cet enregistrement, mais je voulais vous indiquer que effectivement, la communication non verbale, quelque part, elle est bien verbale par rapport à la structure, aux fondations, hein, aux implantations du langage dans la structure humaine. Dans la vocalisation, la phonation qui est intrinsèque à la nature humaine, de l'humain bien sûr, ce qui nous différencie des animaux bien sûr, mais aussi, si vous voulez, du fait que, bon, enfin voilà, on est très tributaire et très impacté par le langage. Enfin, vraiment, le langage, voilà, on a une structure langagière qui fait qu'on va absorber le signifiant. En signifié, mais le signifié sera en coupure avec le signifiant. Le signifiant, si vous voulez, ça peut être un système, enfin une sorte de rotation de mots, un discours, mais s'il est purement scientifique, si vous voulez, il n'y a pas de subjectivité, si vous voulez, dans les équations, dans un discours scientifique, il n'y a pas de subjectivité, vous voyez. Notamment quand on lit le corps biologique d'une manière scientifique, il n'y a pas de subjectivité, si vous voulez. Bon. Et donc la question, c'est qu'en fait, il y a une dimension psychosomatique importante. Des systèmes de raideur, tout d'un coup, des sensations de lourdeur, des sensations un peu comme de l'électricité, un peu enfin, vous voyez, toutes sortes de choses qui sont déclinées au niveau infini. Il y a une déclinaison infinie des effets dans le corps, hein, dans le corps tel qu'on le ressent, hein, le corps somatique. Mais j'entends bien dans une dimension psychanalytique. Je n'interviens pas sur le terrain médical, à proprement parler, voilà, je reste dans une dimension où c'est vraiment le responsable. C'est qui, c'est quoi le responsable? Eh bien, c'est la parole de l'autre. Voilà, c'est la parole qui va venir, si vous voulez, déranger, faire un peu vaciller, si vous voulez, la position du sujet, qui sera en souffrance, qui sera en demande à ce moment-là. Parce que il aura refoulé un propos, une parole, voilà. Et donc, comme je parlais ici de la communication non verbale, eh bien, si vous voulez, à être dans la communication non verbale, n'en demeure pas moins d'être toujours dans la communication langagière, mais une dimension langagière où il n'y a pas de phonation, il n'y a pas de verbe, de construction de verbe, vous voyez. Et donc, la parole est un élément qui va venir libérer le sujet, qui va venir le faire décompresser. Moi, je sais que quand je trouve les mots justes, bah, c'est pas pareil, si vous voulez. Hein. Ça permet de se libérer. Moi, il m'arrive dans mon quotidien de contextualiser ce qui se passe dans mon corps au niveau psychosomatique pour essayer de comprendre qu'en fin de compte, il y a eu réellement tel événement de propos, hein, j'appelle ça même un événement de propos de l'autre, quelque chose qui était refoulé. Alors, on n'a pas tout le temps les réponses, hein, on est parfois, on n'est pas comme dans un film, il n'y a pas les répliques qui fait qu'on a tout le temps les réponses, voilà, hein, d'accord, il se peut que des fois, on ne sache pas répondre, on n'est pas être tétanisé, etc. Donc, il y a des lourdeurs à ce niveau-là qui fait qu'on ne peut pas toujours répondre comme on le souhaiterait, comme dans un film. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Hein. On est souvent dépassé en termes de surprise. Hein. Souvent les choses, les propos, puisque je parle de propos, bah, les propos de l'autre peuvent arriver sous forme de surprise. Maintenant, la communication non verbale, ça va justement être un outil pour, par exemple, observer des gens qui vont avoir une conduite prochaine. Alors ça, effectivement, on peut voir dans des éléments narcissiques et dans des éléments, si vous voulez, de brisure mortifère, de comorbidité pathologique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une déchirure dans la cohérence de l'habillage des vêtements, tout simplement. Hein, si vous voyez des gens dont le pantalon est trop long, des chaussures sans chaussettes un peu usées, hein, typiquement, des mines patibulaires, enfin, toutes sortes d'états un peu nauséeux, comme ça, finalement, ça correspond certainement à des états pathologiques, en tout cas des moments comme ça de laisser aller, si je puis dire, ou de rupture dans la maîtrise des choses de ces sujets. C'est les pathologies de comorbidité, mais ça peut être simplement l'habillement, si vous voulez, soit il est cohérent, l'habillement, soit il est cohérent, soit il est incohérent, soit il est dans une harmonie, en tout cas dans une cohérence de présentation narcissique, soit il est dans une rupture et un rétrécissement narcissique. Donc, soit si ça peut être le moi, ou ça peut être une hypertrophie du moi, ou ça peut être une hypotrophie du moi. Hein. Donc, si vous voulez, quand le moi est réduit à un niveau de noyau de cerise, eh bien, on le voit, des gens qui ne... dont le narcissisme est complètement évaporé et il ne laisse transparaître que une sorte de d'armure, de comment dirais-je, de séparation entre leur corps et l'extérieur, si vous voulez, mais de telle manière que cette armure soit déchirée et soit plutôt en pagaille. Donc ça, on le voit dans la communication. Quand on a affaire à des individus comme ça, on ne sait pas qui on a affaire. Est-ce que ces gens-là sont capables d'avoir des pulsions agressives, des pulsions colériques? Eh bien oui, effectivement, il y a une forte corrélation entre les deux. Il est évident que lorsque nous sommes dans des gares, par exemple, aux alentours des gares, curieusement, il y a des gens comme ça. Alors, il y a des gens qui sont accompagnés par des professionnels, hein, voilà, et d'autres qui sont un peu dans une mer comme ça, un océan de dérive, enfin d'errance. Et là, c'est sûr que là, bon, bah, on peut se dire ils vont d'un point A à un point B d'encadrement, mais ça interroge aussi le sens de leur existence. Comment peut-elle être envisagée dans une parenthèse, si vous voulez, au lieu de comprendre par là qu'il y a un mécanisme dynamique qui fait que la personne, effectivement, s'autorise d'elle-même à s'habiller d'une manière déshabillée, si je puis dire, hein, pour employer une oxymore. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que la communication verbale, elle va aussi traiter du signal narcissique de la personne, la façon dont la personne va, si vous voulez, envelopper son corps par un habillage. Et donc l'habillage a énormément d'importance. On ne peut pas tout voir de la morphologie, comme en caractérologie, de la morphologie, en morphopsychologie de la personne. Elle est cachée par les vêtements. Mais les vêtements sont un peu le discours de la personne par rapport au monde social. Alors, si ce discours est rompu, évidemment qu'on va remarquer ces personnes. Voilà. Je vous laisse là. Ça serait trop long de parler d'autres points de la communication verbale. Je pense que j'en ai fait un petit peu un tour intéressant. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir. Merci.